Un podcast de France Culture.
Ban Ki-moon a dit lors d'une conférence de presse qu'il allait nommer des chercheurs, des experts, évidemment les meilleurs au monde, pour aller chercher l'origine.
Troisième épisode, la controverse scientifique.
Ça ressemble à ce qui a été fait à propos de la Covid. On a exactement le même mécanisme. À un moment, le problème de l'origine finit par se poser et on envoie une équipe avec les meilleurs scientifiques du monde qui va résoudre ce problème. Simplement, le mode de sélection de ces chercheurs n'est pas forcément complètement neutre. On a beau dire qu'ils sont indépendants, ils peuvent avoir une vision des maladies, une vision de l'épidémie particulière. Concernant le choléra en Haïti, c'était très simple. Il existait une théorie qui fait du choléra finalement une maladie dépendante de l'environnement. Et donc cette théorie est développée par un certain nombre de chercheurs essentiellement américains, avec à leur tête deux professeurs qui vraiment sont très impliqués dans cette théorie. La première, c'est la professeure Rita Colwell. Elle est vraiment, on pourrait dire, la papesse du choléra. Elle est connue comme telle, elle a reçu tous les prix scientifiques, justement pour avoir développé cette théorie environnementale du choléra. Il y a un autre professeur qui a aussi une très grande audience, qui est le professeur David Sack. L'ONU ne va pas embaucher officiellement dans ce panel ni Rita Colwell ni David Sack, mais ils vont choisir trois de leurs collaborateurs les plus étroits, enfin des gens qui ont travaillé depuis longtemps avec eux, qui ont beaucoup publié avec eux, auxquels ils ajoutent une ingénieure qui, elle, va surtout voir les aspects eau et sanitation. Et ce panel est constitué et dirigé par un chercheur mexicain qui s'appelle Alejandro Cravioto. Et c'est lui qui va donc organiser l'enquête. On explique évidemment qu'ils auront accès à toutes les sources. Ils ont d'autant plus accès à toutes les sources qui sont briefées d'emblée. Et l'ONU pense à ce moment-là à mandater, payer l'un des ténors du choléra, le professeur David Sack, déjà pour bien orienter la recherche, faire un contre-rapport par rapport à mon propre rapport. Évidemment, ce rapport n'est pas officiel, mais on a fini par l'obtenir. Une fois briefé, ça prend déjà un peu de temps, ils viennent voir les responsables du CDC, ils viennent voir les responsables de l'Organisation Panaméricaine de Santé, les responsables de l'ONU, et ensuite seulement, ils vont sur le terrain, convaincus qu'ils vont aller trouver dans le delta de l'Artibonite l'origine de l'épidémie. Ils vont là-bas et ils ne trouvent rien. Ils se disputent un peu d'ailleurs avec les collègues haïtiens, s'ils m'ont raconté ça. Et finalement, ils vont aussi dans le coin de Mirbalais. Et là, comme tout n'a pas été parfaitement nettoyé, et il y a toujours cette fosse septique à l'air libre, cette espèce de mare, ils la voient, ils la prennent en photo, ils s'aperçoivent qu'elle n'est pas fermée, que les animaux divaguent le long de ce cloaque, que les enfants peuvent aller y jouer. Enfin, c'est quelque chose de vraiment infâme. Ils ont bien conscience qu'il y a un gros problème dans l'eau et surtout l'assainissement de ce camp militaire. Ils s'aperçoivent aussi que le choléra a effectivement débuté à cet endroit-là. Et donc, il va y avoir quelque chose qu'on va retrouver dans le rapport OMS sur la Covid, qui est un mélange de faits précis, on va dire accablants, et d'une interprétation qui laisse quand même la place à quelques considérations plus politiques que l'ONU va pouvoir utiliser. L'effet accablant, c'est ce que je vous ai dit. Ça a bien démarré dans ce petit village de Meid, juste en face du camp Annapurna. Il y a bien cette histoire d'assainissement. Et donc, ils disent, c'est lié à une activité humaine. Enfin, c'est lié aux excrétas. Mais ils disent, cette épidémie n'aurait pas eu une telle ampleur si les Haïtiens avaient un bon système de santé, un bon accès à l'eau potable, un assainissement parfait. Et si l'environnement haïtien, c'est leur théorie, n'avait pas aidé à la prolifération de la bactérie. C'est juste une théorie. C'est pas quelque chose qu'ils ont montré. Mais ils le disent, ils le mettent dans les explications. Et à la fin, ils disent, finalement, alors que ce sont des scientifiques, mais ils se posent plus du point de vue moral, puisque c'était pas volontaire et que personne n'a fait ça exprès, c'est pas grave, c'est pas important. L'important, c'est qu'il y a eu un ensemble de facteurs qui ont amené cette épidémie, et maintenant, ça n'a plus tellement d'intérêt. Ils disent, c'est irrelevant, ça n'est pas important de savoir d'où ça vient. Ce qui compte maintenant, c'est de prendre en charge les gens. Donc, ils ont une espèce de sentence, presque au sens juridique du terme, final, qui disent, personne n'est responsable. Quand je repense au travail de ce panel, et en particulier du leader de ce panel, avec qui j'ai discuté longuement, avec qui j'ai fait passer énormément d'informations, je m'aperçois qu'il n'était pas très enclin à diffuser ce type d'informations. Je ne suis même pas sûr que tout le panel ait eu ces informations. 2 ans après, je me suis aperçu qu'en même temps qu'il était l'arbitre entre la théorie environnementale et le rôle des soldats népalais, il travaillait avec le professeur Rita Colwell à essayer de démontrer le rôle des souches autochtones de Vibrio cholerae dans l'épidémie. C'est un article qui a été publié en 2012 qui a relancé la polémique. Et donc, ce monsieur était à la fois le leader des enquêteurs et en même temps, il travaille avec le professeur Rita Colwell pour démontrer qu'il y a un rôle environnemental dans ce choléra. Donc, c'est un peu l'arbitre qui prend de temps en temps le maillot d'une équipe pour essayer d'aller marquer un but. Quand on parle de cette publication qui est sortie dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines, qui est une revue importante, quand on regarde de près cet article, il présente le choléra comme étant la conséquence du tremblement de terre, du temps qu'il a fait, etc. Et il présente une figure qui, quand on la décortique, est une figure qui a été construite sur une carte qui avait été produite au tout début de l'épidémie, qui montrait le point de départ du choléra et la situation en Haïti à ce moment-là, avec les camps où se trouvaient les personnes victimes du tremblement de terre. Et il y avait sur cette carte une explication qui posait problème par rapport à la théorie du professeur Colwell, qui était le fait que l'épidémie avait démarré loin de la zone touchée par le tremblement de terre et qu'elle avait déjà fait beaucoup de morts, etc. Mais le fait que ce soit loin était écrit. Et ça pouvait gêner. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, on n'a pas le droit de reprendre une figure sans donner la source, ce qu'elle avait fait. Mais en plus, pour éviter d'avoir à discuter ça, mis quelque chose dessus, une sorte de cartouche qui cache cette phrase qui était gênante et qui contredisait complètement l'introduction de son article. Donc on est quand même dans de la manipulation scientifique, mais fait au plus haut niveau, pas de la manière la plus élégante, mais au plus haut niveau. Quand les scientifiques américains vont parler aux médias, il leur apporte d'abord une explication. Et ça permet de relier cette épidémie à une histoire plus vaste, qui est notre histoire du monde, le réchauffement, les modifications que l'on fait à l'environnement, et finalement, le risque qui augmente avec ce réchauffement climatique. Donc ça apporte aux médias ce qu'ils veulent. Et ça marche extrêmement bien. Partout, les gens rebondissent sur ces explications et disent, mais de toute façon, il y avait d'un côté les Haïtiens qui véhiculent une rumeur, donc il y a une dévalorisation quelque part de ceux qui disent c'est les militaires, et une valorisation de grands scientifiques qui ont le savoir, c'est les sachants, ils sont pas forcément sur place, ils sont plutôt dans leur laboratoire, en particulier aux États-Unis, qui expliquent que tout ça est très clairement la conséquence de ce qui se passe sur notre planète, de la manière dont on fait souffrir la planète. Et je trouve que là encore, quand on parle du début des pandémies, on y reviendra dans d'autres cas, cette parole qui associe un problème de santé, une épidémie, une pandémie, à la souffrance de l'environnement, passe très bien et vient des fois obscurcir d'autres causes qui sont importantes à prendre en compte aussi. Quelques mois après le rapport de l'OMS et la publication aussi dans une revue scientifique de mon propre rapport, qui a donc été validé par les pairs, un chercheur danois qui s'appelle René Hendriksen a une idée à la fois toute bête et géniale. Il se dit, mais pourquoi j'écrirais pas aux biologistes népalais en leur disant, vous avez eu une épidémie durant l'été 2010 et au début de l'automne 2010, vous avez certainement dû faire des analyses, vous avez certainement isolé des souches, et il y a une controverse qui dit que ce sont des soldats népalais qui ont amené le choléra. En fait, il y a moyen de savoir. Vous pouvez prouver votre bonne foi ou la non-implication du Népal rien qu'en nous fournissant les souches. On va les étudier à fond et on va pouvoir dire ce qu'il en est. À ce moment-là, le séquençage était plus compliqué à faire. C'est une bactérie, c'est assez grand et on est en 2010-2011, donc une période où c'est pas encore complètement démocratisé. Et ils font le séquençage. Ils lisent la totalité de la séquence de plusieurs souches isolées au Népal à l'été 2010 et ils s'aperçoivent que parmi ces séquences, il y en a une qui est exactement la même que celle qui va déclencher l'épidémie d'Haïti. Donc on a là, comme dans la gendarmerie ou la police, une sorte de preuve ADN. On a l'ADN du coupable, en quelque sorte. Et on sait que c'est exactement cette souche. On va chercher d'autres souches qui ressemblent partout dans le monde. On ne trouvera jamais de souche aussi proche, aussi comparable que celle qu'il y avait à la fois au Népal et en Haïti. Donc la démonstration devient de plus en plus solide et ça débouche d'ailleurs sur un cas d'école, une publication dans une grande revue où différents chercheurs vont participer pour dire voilà comment la science a pu résoudre une controverse en expliquant que finalement cette analyse de l'ADN plus les considérations épidémiologiques recueillies sur le terrain permettent d'affirmer sans aucun doute maintenant que le microbe a bien été rapporté du Népal par les soldats. À partir de 2012-2013, grâce à ces travaux sur l'ADN des souches, qui viennent s'ajouter aux travaux d'épidémiologie, validés par des publications, on avance vers une preuve de plus en plus difficile à réfuter de l'implication de ces soldats népalais, involontairement, hein, mais une implication quand même, dans l'épidémie liée à une manière extrêmement désinvolte de gérer les fosses septiques de ce camp-là. Et il va y avoir des discussions juridiques, des avocats vont s'emparer de l'affaire, mais l'ONU ayant une immunité la plus totale, il n'y aura jamais de mise en cause de l'ONU de ce côté-là. Par contre, au fil du temps, à l'intérieur même de l'ONU, un certain nombre de personnes commencent à trouver que cette histoire-là et ce refus de prendre en compte la souffrance de la population haïtienne et son désir de connaître la vérité pourrait être délétère à l'ONU. D'accord, sur le plan juridique, l'ONU n'aura jamais de responsabilité, mais quand même, il faut à la fois reconnaître la responsabilité et proposer des solutions.
Je tiens à m'adresser directement au peuple haïtien.
Ils vont mettre 6 ans pour ça, mais au bout de 6 ans, l'ONU revoit sa position.
Je vais donc commencer en créole.
Et Ban Ki-moon va finir par le faire. Il est à la fin de son deuxième mandat comme secrétaire général de l'ONU. Il va s'adresser à la population haïtienne.
Je dis à ma petite pépassien, on est respect.
En français, en anglais et en créole haïtien pour demander pardon.
The United Nations deeply regrets the loss of life and les souffrances causées par l'épidémie de choléra. Nan non, Nations Unies, moins vous l'avez dit à clé. We apologize to the Haitian people. Nous n'avons tout simplement pas fait assez. Nous regrettons Hank Bill. We are profoundly sorry for our role. Nous sommes profondément désolés pour notre rôle.
L'ONU a enfin reconnu sa responsabilité dans l'apparition de l'épidémie. Une reconnaissance qui va peu à peu redéfinir la stratégie de lutte contre le choléra en Haïti.